Si on essaye d'imaginer la création d'un réseau médiatique mondial, tu sais, un truc capable de diffuser non-stop, 24 heures sur 24.
Ouais, on pense tout de suite à un truc énorme.
C'est ça, hein. On visualise direct un immense gratte-ciel en plein Manhattan.
Ouais.
Avec des salles de serveurs gigantesques.
Des mecs en costard dans des conseils d'administration, voilà.
Exactement. Et surtout, un financement de départ de plusieurs dizaines de millions d'euros injecté par un conglomérat quelconque. Parce que bâtir un empire de l'information mondialisée, ça semble exiger une force de frappe financière écrasante.
C'est l'image classique qu'on en a, oui.
Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, le centre névralgique du réseau qu'on analyse aujourd'hui, il n'est pas à New York ou à Londres.
Pas du tout.
Il est né dans une commune de la banlieue parisienne, en Île-de-France. Et la personne aux commandes, c'est pas du tout un mania de la finance. C'est une experte en agronomie tropicale.
C'est un contraste qui est hyper saisissant. Et c'est vraiment au cœur de notre exploration approfondie d'aujourd'hui.
Carrément.
Les documents qui servent de socle à cette analyse, pour ceux qui nous écoutent, proviennent de Radio Tam Tam Africa.
Voilà, c'est le sujet du jour.
Et plus spécifiquement, on va décortiquer leur dossier de présentation officielle, un document qui fait aussi office de manifeste pour leur campagne de financement participatif.
Ouais, c'est un texte super riche.
Très riche. Il expose vraiment les rouages internes d'un média associatif, indépendant et panafricain. Un média qui a été créé justement pour contourner les filtres traditionnels de l'information.
Et du coup, l'objectif de cette plongée dans nos sources, c'est de comprendre la mécanique derrière cette initiative. Comment on fait pour maintenir une infrastructure de diffusion mondiale, totalement libre d'influence, que ce soit corporatiste ou étatique ?
Surtout à une époque où l'attention du public est littéralement monnayée par les algorithmes.
C'est clair. Alors, le point de départ chronologique, ça fixe tout de suite les enjeux. Le 13 mai 2017, ce média est officiellement lancé.
Ouais, il y a bientôt 10 ans.
Et ce qui frappe immédiatement quand on lit le document, c'est l'empreinte technologique qui a été déployée. Le signal audio ne s'arrête jamais.
Jamais, oui, c'est du 24/7.
Il est diffusé via Internet, il y a des applis dédiées, iOS et Android, ils sont sur les plateformes de streaming, ils ont des formats à la demande et même sur les radios numériques connectées.
C'est une couverture hyper large.
Et le résultat, c'est une présence dans 139 pays. C'est dingue. C'est un peu l'équivalent numérique d'une station de quartier où tout le monde se connaît, sauf que là, le quartier, c'est la planète entière.
C'est une super belle analogie. Et d'ailleurs, ce choix stratégique de la région parisienne, combiné à une architecture purement numérique, ça mérite qu'on s'y attarde.
Ah oui, pourquoi l'Île-de-France ?
Eh bien, l'Île-de-France, c'est l'un des carrefours historiques et culturels les plus denses pour les diasporas africaines en Europe.
C'est vrai.
Donc, s'implanter géographiquement au sein même de ce carrefour, ça permet d'être en contact direct avec les réalités, les combats, la culture locale de la diaspora.
Et ensuite, le numérique fait le reste pour la diffusion.
Exactement. Utiliser exclusivement les canaux numériques, ça transforme cette réalité très locale en une voie mondiale. Historiquement, tu sais, pour créer une radio, il fallait se battre pour obtenir des fréquences hertziennes.
Les fameuses ondes FM.
Voilà. Et ces ondes, elles sont limitées géographiquement, mais surtout, elles sont contrôlées et distribuées par les États via des licences très strictes.
Souvent très politiques, du coup.
Très politiques. Donc, en basculant directement sur une infrastructure d'application et de streaming dès 2017, ce projet a physiquement enjambé les frontières de l'État.
Ils ont contourné le problème à la base.
Ils ont créé un corridor direct, sans douane, sans censure possible, entre le continent africain, l'Europe, les Amériques et au-delà.
Et on sent vraiment cette volonté de contourner les barrières institutionnelles dans leur slogan. Il est martelé dans le texte, c'est « La parole est une force ».
Oui, en majuscule.
Voilà. Et quand on lit ces cinq mots, dans le contexte d'un paysage médiatique qui est souvent complètement saturé par des intérêts financiers ou alors avec des lignes éditoriales très politisées.
Ou très orientées, oui.
C'est ça. On perçoit une véritable déclaration d'indépendance de leur part.
S'approprier la parole, dans ce contexte, c'est vraiment un acte de reprise de pouvoir. Le document qu'on a sous les yeux souligne explicitement la nécessité de proposer une information non partisane et factuelle.
Ce qui est rare aujourd'hui.
Très rare. Dans un système où l'information est traitée comme une simple marchandise, juste destinée à générer du clic, ou pire, à influencer des élections, revendiquer que la parole est une force brute, c'est refuser de se laisser dicter son narratif.
C'est reprendre le contrôle, quoi.
C'est affirmer haut et fort que les diasporas et les populations africaines ont le droit fondamental de raconter leur propre histoire.
Avec leurs propres mots.
Exactement. Sans qu'un prisme extérieur, souvent occidentales, ne viennent déformer ou, exotiser la réalité de leur vécu.
Ouais, je vois tout à fait. Mais bon, revendiquer cette indépendance sur le papier, c'est une chose. La concevoir logistiquement au quotidien, c'est une autre paire de manches.
Oh que oui, c'est un défi permanent.
Et c'est là que le profil de la fondatrice entre en scène. Et franchement, ça bouleverse complètement les idées reçues qu'on pourrait avoir sur la direction d'un groupe de presse.
Son CV est incroyable.
Le document nous la présente, Félicité Amaniara Vincent. Elle est née en 1967 à Libreville au Gabon. Elle exerce en tant que journaliste indépendante et éditorialiste. Donc là, ok, c'est une base logique pour monter un média.
Jusqu'ici, tout va bien.
Mais la suite de son parcours, c'est un vrai kaléidoscope. Elle a un master en management général des entreprises sociales et solidaires de l'ESSEC.
Déjà, gros bagage.
Ensuite, elle est ingénieure en agronomie tropicale.
Voilà.
Elle a aussi été conseillère municipale à Argenteuil. Elle a été cadre dirigeant dans le secteur médico-social. Et en plus, elle se présente très fièrement comme une mère et une grand-mère dédiée à la transmission.
C'est impressionnant.
Attends, franchement, on a... de l'agronomie tropicale, de la politique locale en région parisienne, de la gestion médico-sociale, comment ce cocktail improbable peut mener à la création d'un empire médiatique panafricain ?
Sur le coup, on est d'accord, un tel alignement de compétences semble hyper disparate, surtout si on l'observe avec la vision d'une entreprise classique.
Totalement. Pourtant, si on gratte un peu, chaque élément de ce parcours est une brique fondamentale. Ça explique vraiment l'architecture même de ce média. Prenons l'agronomie tropicale, par exemple.
Ouais, comment ça s'intègre ?
Par définition, c'est la science qui étudie comment cultiver des sols complexes, comment comprendre des écosystèmes et des climats très spécifiques pour faire pousser des ressources qui vont nourrir une communauté entière.
D'accord. Eh bien, construire un média panafricain indépendant, ça s'apparente exactement à ça. Il ne s'agit pas de venir, d'extraire une ressource pour faire du profit rapide et de partir.
Un jeu, ouais, où tu veux en venir ?
Il s'agit de cultiver un écosystème d'information durable. Et ça dans un environnement médiatique qui est parfois très aride ou même hostile aux voix indépendantes.
Si on pousse cette métaphore de l'agronomie, en fait, on comprend que ce média, il est un peu pensé comme un jardin partagé.
Exactement. C'est une très belle image.
Mais un jardin partagé mondial. Et du coup, ça nécessite une forme d'organisation bien particulière, qui est à des années-lumière de la multinationale cotée en bourse.
Complètement.
Et c'est là que le diplôme de l'ESSEC intervient, non ? L'économie sociale et solidaire, ce fameux secteur de l'ESS, j'imagine que c'est la clé de lecture pour comprendre comment ça tourne.
L'apport de l'ESS, c'est même le cœur du réacteur pour comprendre le fonctionnement interne que détaillent nos sources. Dans une structure classique, l'objectif ultime, c'est quoi ?
Faire de l'argent.
Voilà, maximiser les profits, rémunérer les actionnaires. Et cette structure financière dicte les décisions éditoriales, ce qui pousse souvent au sensationnalisme.
Pour faire du clic, ouais.
L'économie sociale et solidaire, ça repose sur un paradigme radicalement opposé. Le but, c'est pas le profit, c'est l'utilité sociale. Et les éventuels excédents financiers sont obligatoirement réinvestis dans la mission de base.
C'est la loi dans l'ESS.
C'est ça. Donc la fondatrice applique des principes de haute gestion, on parle quand même de l'ESSEC, hein, non pas pour enrichir des investisseurs, mais pour optimiser la transmission de la culture.
Et ça, ce bagage technique... il s'ancre ensuite dans la réalité très concrète des gens, grâce à ses expériences de terrain, en tant que conseillère municipale à Argenteuil et cadre dans le médico-social.
Des milieux pas faciles.
Oui, on parle de domaines où l'urgence humaine est permanente. Il faut de l'empathie, il faut écouter les populations vulnérables, gérer les crises du quotidien.
Exactement.
Et je trouve ça hyper frappant de voir comment ces expériences locales forgent au final la ligne éditoriale d'une radio qui émet à l'échelle mondiale.
Et ça se ressent profondément dans leur programmation. Le but, c'est vraiment de relier le local au global en permanence. Le document nous décrit une grille de programmes qui agit comme une plateforme culturelle multidimensionnelle.
C'est-à-dire ?
Ce n'est pas une chaîne d'information en continu qui va jouer sur l'anxiété. Ce n'est pas non plus une simple playlist musicale qui tourne en boucle.
Ouais.
La volonté, c'est de créer une agora moderne, une place publique.
L'analyse de cette grille, d'ailleurs, ça donne presque le vertige, dans le bon sens du terme.
Elle est extrêmement variée.
On y découvre un grand écart assumé qui brise, mais vraiment tous les silos habituels. Les sources mentionnent des émissions de débats intellectuels hyper poussées. Ça parle d'histoire, de littérature, de la mémoire des peuples.
De géopolitique aussi.
Voilà, des revues de presse sur la géopolitique la plus pointue. Et au milieu de tout ça, paf ! La programmation musicale navigue entre les musiques traditionnelles, l'afrobeat contemporain, la pop, le rap.
Et même de la country.
Oui, de la country. Et je veux dire, intégrer un morceau de country entre un débat sur les politiques publiques en Afrique de l'Ouest et un hit d'afrobeat, faut oser. C'est un choix éditorial fascinant.
Et ce choix, qui peut paraître très éclectique ou aléatoire au premier regard, relève en fait d'une ingénierie culturelle hyper précise.
C'est-à-dire, ce n'est pas juste pour la diversité.
Non, c'est plus profond. Trop souvent, les médias qui ciblent les diasporas sont cantonnés à des formats hyper stéréotypés. On part du principe que l'audience n'est intéressée que par une vision nostalgique ou un peu folklorique de sa culture d'origine.
Ah oui, le côté cliché.
Voilà. Alors que mêler des analyses géopolitiques complexes avec une diversité musicale totale, des racines africaines jusqu'à la country, c'est refuser de réduire l'auditeur à une seule dimension.
C'est le considérer dans sa globalité.
C'est reconnaître que l'identité diasporique, elle est multiple, elle est hybride. On peut s'intéresser à la marche du monde dans sa globalité, tout en restant profondément attaché à son héritage.
Et le document met aussi en lumière une politique active de soutien aux talents émergents.
Oui, très important ça.
Que ce soit des artistes, des auteurs ou même des entrepreneurs, la radio se positionne comme un tremplin pour ceux qui restent invisibles dans les circuits médiatiques de masse.
C'est la fonction d'utilité sociale dont on parlait.
Exactement. Le rôle de la station, c'est d'amplifier ces signaux faibles pour en faire des ondes de force. Et apparemment, cette stratégie globale, ça a fini par attirer l'attention au plus haut niveau institutionnel.
Tout à fait.
Nos sources mentionnent une reconnaissance explicite de la part de l'UNESCO dans le cadre de la Journée mondiale de la radio.
Et l'importance de cette mention par l'UNESCO, vraiment, il ne faut pas la sous-estimer.
C'est quand même un label prestigieux.
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ne distribue pas ces mentions à la légère, ni pour faire plaisir. Le document précise bien que cette reconnaissance souligne le rôle de Radio Tam Tam Africa dans la promotion du pluralisme médiatique.
Et dans la défense de la diversité culturelle aussi.
Exactement, et dans l'éducation populaire. Donc, sur le plan international, c'est une validation institutionnelle massive de leur modèle d'économie sociale et solidaire appliqué aux médias.
Ça prouve que ça marche.
L'UNESCO confirme que cette plateforme, c'est pas juste un canal de divertissement pour passer le temps. C'est un véritable outil de développement humain. Ça protège des voix qui, sans ce genre d'initiative associative, risqueraient juste d'être englouties par les géants de la presse mondiale.
Ouais, cette reconnaissance morale et institutionnelle, franchement, elle est magnifique sur le papier.
Elle l'est.
Mais, parce qu'il y a un mais, quand on lit la section du document qui est consacrée aux réalités matérielles, on se heurte très très vite au principe de réalité.
Le fameux nerf de la guerre.
Voilà. Maintenir un tel niveau d'exigence, avec des reportages de terrain, des émissions en direct, des analyses géopolitiques, tout en assurant une qualité audio impeccable pour 139 pays, ça exige des ressources colossales.
Et il y a un malentendu énorme à ce sujet.
Complètement. Il y a un biais cognitif chez le public. On a tendance à croire que le numérique, par essence, est immatériel, et donc c'est gratuit. L'auditeur télécharge son appli, il appuie sur play, et pouf, le son arrive.
Comme par magie.
C'est ça. Et on en oublie l'infrastructure physique titanesque que ça requiert derrière.
Ce paradoxe économique du streaming en direct, il est très méconnu du grand public. Et pourtant, c'est le cœur même de ce document de financement participatif.
C'est ce qui justifie l'appel aux dons.
Absolument. Tu sais, dans le modèle traditionnel de la radio FM, hertzienne, le coût de diffusion est à peu près fixe.
Oui, une fois que l'antenne est là.
Voilà. Une fois que l'émetteur est payé, que l'électricité est branchée, que t'es 100 personnes ou 100 000 personnes qui t'écoutent, la facture technique reste rigoureusement la même pour la station.
Ce qui n'est pas du tout le cas sur Internet.
Pas du tout. Et non, l'infrastructure numérique fonctionne sur un modèle radicalement différent. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup plus punitif quand tu as du succès.
C'est un point central, ça. Sur Internet, chaque auditeur qui se connecte au flux audio ouvre un canal de données individuel depuis les serveurs. Donc chaque seconde d'écoute, ça consomme de la bande passante.
Et la bande passante, ça se paie.
Exactement. Si l'audience double du jour au lendemain parce qu'une émission a fait le buzz, la facture des serveurs et des fournisseurs d'accès double instantanément.
C'est le revers de la médaille.
Plus un média indépendant a du succès et rassemble d'auditeurs à travers le monde, plus il se retrouve paradoxalement en danger de mort financière s'il n'a pas les revenus qui suivent la courbe. Le succès devient une vulnérabilité.
Et c'est l'anatomie même de cette vulnérabilité que le document détaille avec une transparence vraiment remarquable.
Il ne cache rien.
Non, parce que pour garantir une information factuelle et indépendante depuis près de 9 ans, la radio a systématiquement refusé les financements qui pourraient altérer sa ligne éditoriale.
Pas de compromis politique ou commercial.
Zéro. Par conséquent, la liste des besoins matériels qui est exposée dans leur campagne de financement est à la fois ultra pragmatique et un peu vertigineuse.
Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement ?
Il faut financer l'achat et la maintenance perpétuelle des équipements audio et vidéo professionnels. Il faut payer cette fameuse bande passante croissante colossale pour la diffusion mondiale. Et puis les coûts inhérents au reportage sur le terrain, la production, la formation des équipes.
La couverture des événements locaux aussi.
Tout à fait. Tout ça coûte très cher.
Si on reprend notre petite métaphore du Viarda partagé tout à l'heure.
Ah oui, j'aimais bien celle-là.
L'infrastructure numérique, ces serveurs, cette bande passante. En fait, c'est le système d'irrigation de ce réseau mondial. S'il n'y a plus d'eau dans les tuyaux, le plus beau des écosystèmes, il meurt, il s'effondre.
C'est implacable.
Et comme la radio a refusé de se brancher sur, disons, le système d'arrosage automatique des grandes agences publicitaires ou des subventions politiques conditionnées...
Ce qui l'aurait rendue dépendante.
Exactement. Elle se retrouve face à un choix radical, confier la survie de cette irrigation directement à sa communauté, à ses auditeurs.
Et le modèle économique qui en découle, du coup, il est éminemment militant. Les formulations du texte insistent beaucoup sur le fait que chaque don compte, ça met vraiment l'audience face à ses propres responsabilités. Limpide, l'indépendance éditoriale, elle est garantie par la structure ESS. Mais l'indépendance financière qui rend cette liberté possible, elle doit être assumée collectivement par les citoyens.
C'est d'une immense exigence intellectuelle envers le public, quand on y pense.
Ça demande de l'éducation, oui.
Ça demande de faire comprendre à l'auditeur que la gratuité totale, ça n'existe pas. Soit on paye avec son temps de cerveau disponible, exposé à la pub, soit on paye avec ses données personnelles, soit on participe au maintien des serveurs.
Il n'y a pas de solution magique.
En choisissant cette troisième voie, Radio Tam Tam Africa transforme carrément l'acte de donner en un acte concret d'éducation populaire. Et ça, c'est en parfaite adéquation avec la philosophie de sa fondatrice.
La synthèse de tous ces éléments, franchement, s'adresse le portrait d'un média qui est bien plus qu'une simple station de radio numérique. C'est une architecture sociale complexe.
Comment tu la résumerais ?
D'un côté, il y a cet ancrage très local en Île-de-France, porté par une femme aux multiples casquettes, qui utilise l'ingénierie et la gestion solidaire pour créer du lien.
Ouais.
De l'autre côté, il y a cette projection technologique massive qui rayonne dans 139 pays et qui offre un espace d'expression reconnu par l'UNESCO.
Et au milieu de tout ça ?
Et au milieu, il y a cette tension permanente. Cette lutte financière de tous les jours pour maintenir les serveurs allumés sans jamais compromettre l'âme du projet.
Eh bien, cette exploration de l'anatomie d'un tel média indépendant, ça nous amène vraiment à une réflexion plus large pour terminer. En parcourant les sources, la phrase qui résonne le plus à la fin, c'est cette nécessité vitale de, je cite, « défendre la diversité des voix africaines dans l'espace médiatique mondialisé ».
C'est le cœur de leur combat. Et ça pousse à s'interroger sur l'avenir de tout notre écosystème de l'information. Si on observe la croissance de ce type de réseau financé par les communautés...
Ça montre qu'il y a une attente.
On constate que ça répond à un besoin profond d'authenticité. Les diasporas cherchent des plateformes capables de restituer la complexité de leur réalité sans les filtres de rédaction souvent très éloignés du terrain.
Et c'est précisément ce qui laisse une question brûlante en suspens pour tous ceux qui nous écoutent.
Vas-y.
Si ces agora mondiales indépendantes, soutenues pour des citoyens pour échapper à la censure, deviennent petit à petit les sources d'informations les plus fiables pour les diasporas...
Ce qui est en train de se passer.
Eh bien, il y a de quoi réfléchir à l'onde de choc que ça va provoquer. On peut sérieusement se demander comment les géants médiatiques traditionnels, avec leur modèle économique vieillissant et leurs prismes éditoriaux parfois complètement déconnectés...
Ils vont devoir s'adapter.
Comment ils vont être forcés de revoir entièrement leur propre façon de couvrir et de raconter le continent africain? Parce que sinon, ils risquent de perdre définitivement toute légitimité face à cette force de la parole libérée.